Je ne sais pas si vous avez remarqué hier et avant-hier, mais on a beaucoup parlé de pureté. Et même hier, Pau n'a pas relevé dans son exposé, mais il a beaucoup, dans les versets qu'il a commentés, il est beaucoup question de choses impérissables, de choses pures, de choses saintes. Et donc, toujours pour appuyer que les chrétiens auxquels Pierre s'adresse sont des personnes très, très, très particulières. Elles sont saintes, elles sont pures, et ça va aller en s'améliorant encore. Elles seront de plus en plus pures, elles seront de plus en plus saintes. Mais du coup, il y a un problème. Comment on fait quand on est de plus en plus pur et de plus en plus saint, et qu'on reste dans un monde toujours aussi pourri? Et que, surtout, alors qu'on est de plus en plus pur et de plus en plus saint, eh bien, on est sous l'autorité de gens qui sont, eux, de plus en plus pourris. Comment faire? Parce que devenir chrétien dans une société païenne, bah, ça a entraîné forcément des problèmes. Car ça voulait dire avoir de nouvelles habitudes, c'est-à-dire arrêter de faire des choses, prendre de la distance avec d'autres choses qu'on faisait avant et faire de nouvelles choses. Et donc, quand on dénote, on dérange. Et on en paye souvent le prix au quotidien avec les autres. Mais le problème, c'est que les autres, vu qu'ils sont, ils n'ont pas été rachetés par Christ, eh bien, les autres, en fait, on a tendance à se dire, mais sous quel prétexte, en fait, maintenant, eux, ils doivent me commander, alors que moi, j'ai été libéré par le Seigneur de l'univers. Et on est tenté d'être insoumis. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu le logo, c'est le logo de la France insoumise. Je ne compte pas faire de politique. Je tiens à vous dire. Non. Mais je ne pouvais pas manquer ce parti politique, étant donné que notre passage, qui traite de l'espérance qui se voit, notre passage traite de la soumission. De la soumission à des personnes qui finalement deviennent des... J'arrive plus à trouver l'adjectif, mais c'est pas grave. Ne sont pas légitimes, pardon. Voilà. Sont illégitimes, finalement, pour nous commander. Comment être chrétien dans un monde hostile? Comment rester différent, subversif, tout en témoignant? C'est donc le sujet de notre passage. Et donc, nous allons le saucissonner en plusieurs bouts, comme d'habitude. Et le premier bout, ce sont les versets 11 et 12 du chapitre 2. Donc, vous pouvez lire avec moi. Ce ne sera pas affiché aujourd'hui. Désolé, sinon vous vous encroutez dans des habitudes. Voilà. Donc, 1 Pierre 2, à partir du chapitre 11, et là on va lire le verset 11 et le verset 12. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Et jusqu'ici, notre lecture pour l'instant. Vous remarquerez, donc c'est le principe général de bonne conduite, c'est comme ça que j'ai appelé cette première petite partie, et vous remarquerez déjà que Pierre continue avec son principe de distanciation. Et il leur dit, je vous encourage comme des exilés et des étrangers. Il redit ce qu'il a déjà dit au moins au début de la lettre. les chrétiens sont des exilés sur terre qui se posent face aux gens des nations. Et là, en fait, il reprend encore une fois une thématique de l'Ancienne Alliance, hein, où finalement, il y a le peuple élu et il y a les nations qui sont autour du peuple élu, qui sont des nations pas très fréquentables, normalement. Et le fait qu'il leur dise ça, vous êtes des exilés sur cette terre, ça permet, ça aide à avoir une réaction spirituelle, une réaction qui est conforme à leur nouvelle identité. Vous êtes des exilés sur cette terre, alors ne réagissez pas comme des gens de cette terre. Ayez une réaction spirituelle, céleste, une réaction à la hauteur de votre espérance. Déjà, ça commence à mettre un peu dans l'ambiance. Ensuite, c'est le sujet du passage, avoir une belle conduite au milieu des païens, ça veut dire ne pas céder au désir de la chair. Et je ne sais pas vous, hein, mais quand moi j'entends dans la Bible « céder au désir de la chair », je pense tout de suite au sexe. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, les désirs de la chair, c'est autre chose. C'est d'autres mauvais désirs qui peuvent assaillir des personnes qui subissent des injustices. Et on va parler d'injustice. Et enfin, on voit le but de ces belles œuvres. Le fait de ne pas céder au désir de la chair et de faire des belles œuvres, Pierre nous dit dans ces deux versets, à quoi ça sert ? Ça sert au témoignage. Sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres, et qu'est-ce qu'ils font après avoir vu vos belles œuvres ? Ils glorifient Dieu au jour de son intervention. Alors, au jour de son intervention, vous pouvez interpréter ça de deux manières. Soit quand ils vont se convertir, ils vont avoir un début de processus de conversion. Soit quand Jésus va revenir. Et là, ce sera peut-être un peu moins drôle s'ils ne sont pas convertis. Mais au moins, ils verront, ils auront été stimulés, titillés par des chrétiens qui ont vraiment bien réagi face à eux. Donc vous avez un peu le cadre, là, avec ces deux versets, le principe général. Et donc, après ce principe général, qui est, assez théorique, Pierre va aller sur trois cas particuliers pour appliquer ce principe général. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir des choses, enfin des cas bien plus pratiques, je sais que dans mon groupe de discussion hier, certains ont dit « j'aimerais bien avoir des exemples plus pratiques ». Eh bien, normalement, vous n'allez pas être déçus. Ça va être des cas très pratiques. Par contre, il se pourrait que vous soyez déçus sur ce que va dire Pierre. En tout cas, ça ne corresponde pas forcément à vos attentes. Mais finalement, la Bible, c'est fait pour ça. Donc, les versets 13 à 17, maintenant. Premier cas particulier. « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Jusqu'ici, cette petite partie. Je ne sais pas comment vous réagissez intérieurement à cette partie, mais il y a des choses un peu bizarres. Déjà, il y a un paradoxe, parce que justement, Pierre leur dit soyez soumis aux institutions. Après, il leur dit soyez des hommes libres. Et après, il leur dit soyez des esclaves de Dieu. Soyez soumis aux institutions, soyez des hommes libres, soyez des esclaves. Vous voyez pas un paradoxe ? C'est un peu déroutant quand on lit ce genre de choses. Mais il y a une logique là-dedans. Dieu veut le bien. Veut que le péché qui règne dans le monde soit contenu, soit combattu. Et il se sert des institutions humaines, qui sont bien sûr très imparfaites, mais il se sert des institutions humaines pour justement faire régner le bien. Un bien tout relatif, mais en tout cas faire régner le bien, en tout cas contenir le mal. Et donc, si les chrétiens font le bien, alors que les institutions veulent que le bien triomphe, ces chrétiens finiront par avoir gain de cause. Et donc là, il faut imaginer, hein, quand on lit ce passage, des païens qui accusent les chrétiens parce que justement ils sont chrétiens et qu'ils font pas comme tout le monde et que c'est insupportable les gens qui font pas comme tout le monde, qui essaient de les accuser. Ah, les chrétiens, ils font pas comme nous, vous voyez, ils vont tout déstabiliser, ils vont tout mettre par terre, les institutions. Qu'au bout du compte, ces mêmes institutions se disent, ben non, vous voyez, les chrétiens, ils font le bien. Bien sûr, ils sont un peu dérangeants parce qu'ils font pas comme tout le monde. Mais comme ils font le bien, on peut rien leur faire. On peut rien leur faire. On n'a aucun motif d'accusation contre ces chrétiens. Donc il faut imaginer, au bout du compte, des ennemis des chrétiens qui ont le bec cloué, qui ne peuvent plus accuser les chrétiens parce qu'en fait tout le monde se rend compte qu'ils font le bien. Donc c'est ça un peu l'état d'esprit. Mais bien sûr, il y a une tentation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de ce monde qu'on peut s'extraire des règles parfois injustes de ce monde. Et ça, c'était leur tentation. Oui, on est des exilés sur cette terre. On n'appartient plus à ce monde. Et du coup, en fait, les règles de ce monde, elles ne sont plus pour nous. On est des princes dans le ciel. Et la tentation, quand on est citoyen des cieux, et qu'on a acquis une très forte dignité humaine, puisque d'un seul coup on est des princes, c'est de ne plus accepter d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Parce que les chrétiens, petit à petit, devenaient un peu des déclassés, des citoyens de seconde zone, parce qu'ils étaient bizarres. Et là encore, il y a un fossé entre le statut céleste et le statut terrestre. Et on pourrait se rebeller, être insoumis. Le combat à mener par les chrétiens, dit Pierre, n'est pas une insurrection, comme s'il y avait un idéal terrestre à atteindre. Et finalement, en fait, Pierre est en train de leur dire, si vous voulez en fait faire tout changer sur terre pour que ce soit conforme à ce que Dieu veut, eh bien en fait, vous n'avez pas compris. Bizarre, non ? Le combat à mener par les chrétiens n'est pas une insurrection. L'évangile, bien sûr, vise un changement sociétal. L'évangile veut changer les choses, bien sûr. Mais à partir de chaque individu, en en changeant un à la fois. Ça a été la devise de l'Union internationale des GBU quand j'étais jeune. Changer le monde, un étudiant à la fois. Changer le monde, un étudiant à la fois. Changement sociétal à partir de chaque individu, mais pas en fait bouleverser un régime. Pas tout foutre en l'air. Pas dire tout est pourri, il faut tout changer maintenant. C'est pas comme ça que ça marche. Le changement vu par l'Évangile. Et puis, quand on est libre en Christ, eh bien on est toujours esclave de Christ. C'est ce que dit Pierre en fait. Hein. Il dit, ouais, vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais vous avez encore un maître. Et ce maître, c'est Dieu. Donc vous ne pouvez pas faire comme si, comme si vous étiez totalement libre. Votre maître, c'est Dieu. Et qu'est-ce que dit votre maître ? Soumettez-vous au roi et au gouverneur que j'ai institué sur cette terre pour accomplir ma volonté. Les cadres n'ont pas sauté. Les cadres n'ont pas sauté quand on est devenu chrétien. Ils ont été affranchis, ces chrétiens. Et affranchis, ça veut dire que quelqu'un, vous étiez esclave, quelqu'un vous a racheté, et vous a racheté pour être son esclave. Voilà. Et il a peut-être décidé de vous remettre en liberté une fois qu'il vous a racheté, mais la plupart des esclaves affranchis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque finalement, en fait, ils n'avaient plus de boulot. Ben, ils continuaient de travailler pour leur ancien nouveau maître. Du coup, ils continuaient de dépendre de leur nouveau maître. Les cadres n'ont pas sauté. Mais avant d'aller sur l'esclavage, en tout cas sur les domestiques, je voulais finir avec le fait qu'il y a quand même un plan qui est plutôt troublant, hein, pour, peut-être pour les chrétiens de l'époque, mais aussi sûrement pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ça attire des problèmes quand on ne pratique plus à l'époque le rite civique du culte de l'empereur. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Un bon citoyen romain doit adorer l'empereur. C'est un peu un geste de soumission à l'Empire romain. Et donc, si vous ne voulez pas être traité de traître, eh bien, il fallait accomplir ce rite du culte de l'empereur. Or, les chrétiens avaient tendance à refuser ça, parce qu'en fait, finalement, ils voulaient adorer que Jésus. Et donc, ça leur posait des gros problèmes. Ils pouvaient aller en prison, ils pouvaient être mis à mort. C'est un petit peu embêtant. Mais finalement, il fallait que les Romains comprennent que ce refus n'avait rien à voir avec une révolte, mais que ce refus tenait plutôt à une certaine objection de conscience. Je choisis selon ma conscience, je refuse de faire ça. C'est pas contre l'Empire romain, hein, c'est parce qu'en fait, je peux pas faire ça par rapport à ma foi. Et les Romains l'avaient déjà fait avec les Juifs, en fait. Les Juifs, en fait, les Romains savaient qu'il fallait pas trop toucher aux Juifs, sinon là, ils commençaient à faire un grand cinéma. Alors, il y avait des aménagements pour les Juifs. Vous voyez, les Juifs, en fait, étaient autorisés à pas faire certains trucs que les Romains faisaient. Parce qu'en fait, on savait que sinon, ils commençaient à se révolter. Et une révolte de juifs, vous savez, il faut s'en méfier, quoi. Et les Romains, franchement, avaient un peu peur des révoltes de juifs. Quand on touche aux religieux, c'est toujours bizarre. Et c'est le message que Pierre veut faire passer aux Romains. C'est pas contre Rome que les chrétiens refusent de faire un certain nombre de choses. C'est pas contre Rome, mais c'est pour Jésus. Et c'est un petit peu aussi ce que par exemple, que Luc veut faire passer dans son évangile et dans les actes. En fait, le christianisme et l'Empire romain, c'est compatible. C'est compatible. L'Empire romain n'a rien à craindre du christianisme. Et ça, en fait, c'est très choquant, quand même, de lire des apôtres qui ne parle pas de construire une société chrétienne en balayant les vieilles institutions. Et surtout de lire là ce que dit Pierre. Un gouvernement païen peut servir Dieu sans le savoir. Un gouvernement païen sert Dieu sans le savoir. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. La grâce commune, c'est le fait que Dieu fait en sorte que des hommes qui ne croient pas en lui, eh bien, ne deviennent pas des psychopathes entiers. Les hommes qui n'adorent pas Dieu sont des pécheurs, ils pêchent contre sa volonté, mais Dieu a quand même maintenu un certain cadre pour que le péché n'aille pas trop loin et que les hommes s'entretuent tous. Mais ce qui fait aussi partie de cette grâce commune, c'est que Dieu a fait en sorte qu'il y ait un cadre humain, pécheurs, païens, qui le servent quand même, qui disent quand même que le vol, c'est pas bien, que le viol, c'est pas bien, qu'il y a plein de choses qu'il y a dans les 10 commandements, par exemple, c'est pas bien. Et donc, ça le sert quand même. Mais n'empêche que là, on a quand même un apôtre qui dit aux chrétiens, « Eh, les amis, Rome, finalement, ça sert Dieu. » Rome qui emprisonne des chrétiens. En fait, ben, finalement, l'Empire romain sert Dieu. Alors soyez soumis. Quand vous entendez ça, vous serrez les dents. Deuxième cas pratique, versets 18 à 25. Domestiques, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché ? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés, et son corps, en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient. Mais maintenant, vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Fin de la section. Les versets 19 et 20 se répètent. Ils disent à peu près la même chose. Souffrir est une grâce. Là encore, affirmation bizarre. Voyez comme une grâce spéciale du Seigneur de souffrir pour lui. C'est cool de dire ça. Hein. Le vivre, c'est moins bien. Souffrir à cause de sa foi. Réagir en ne se rebellant pas, c'est une grâce. C'est très déroutant, parce que la tentation, quand on a été affranchi par Jésus, et qu'on a acquis une très forte dignité humaine, bah, la tentation, c'est de vouloir être autonome, d'être sous sa propre loi, de finalement dire, c'est bon, d'accord, je dépends d'un maître, je suis domestique. Alors, il y avait des domestiques qui n'étaient pas esclaves, des domestiques qui étaient esclaves. Je dépends d'un maître, mais maintenant, j'étais affranchi par Jésus, et maintenant, tu ne me donnes plus d'ordre. La tentation est grande, en même temps, c'est une tentation assez limitée, parce qu'en fait, si on est esclave, le maître, en fait, il prend son bâton et il vous tabasse. Donc, en fait, a priori, la tentation, vous l'avez une fois, la deuxième fois, vous avez un peu de mal. Mais en fait, Pierre leur dit, c'est une grâce de souffrir parce qu'on est chrétien. Si Pierre leur dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle est très claire dans cette section. Ces esclaves doivent imiter Jésus. Jésus s'est laissé insulter. Jésus a été maltraité. Jésus s'est laissé tuer pour les sauver. Donc si Jésus a subi l'injustice suprême d'être condamné alors qu'il était parfait, eh bien ces domestiques-là, ces esclaves, doivent accepter de souffrir comme lui parce qu'ils sont chrétiens. Ils doivent le prendre comme exemple. Et finalement, en fait, Pierre dit que le sacrifice, la bénédiction sont des actes plus courageux que la rébellion. Le sacrifice et la bénédiction sont des actes plus courageux que la rébellion. Même si cette rébellion est juste. Même si, en fait, on a des raisons de se rebeller contre l'injustice. Et Jésus avait toutes les raisons d'appeler ses légions d'anges et de tous les massacrer, quoi. Mais Jésus a choisi de ne pas appeler ses légions d'anges et de dire à Pierre et son petit couteau de le ranger parce qu'en fait, finalement, il n'allait pas fournir avec toutes les oreilles. Il vaut mieux se sacrifier, il vaut mieux bénir ceux qui persécutent. Là encore, quelque chose qui est difficile à avaler quand on est fils de prince. Au verset 25, on retrouve la logique de la section précédente. Pierre leur dit « Vous étiez des brebis égarées, mais vous êtes retournés vers celui qui est votre berger, votre maître. » Et une fois de plus, vous avez un maître. Vous avez été affranchis par Jésus, mais votre maître, c'est Jésus. Votre maître, c'est pas vous. Vous n'êtes pas autonome. Vous ne pouvez pas vous faire votre propre loi. C'est Jésus qui dit ce qui doit être. Le principe d'être content de souffrir pour Jésus, Pierre est très très bien placé pour en parler, parce qu'il l'a vécu. Je ne sais pas si ça vous rappelle un épisode que Pierre a vécu. Cet épisode, il est dans Actes 5, les versets 40 à 41. Alors c'est quand Pierre et Jean, ils sont devant le Sanhédrin. Donc je vous recontextualise. Pierre et Jean, c'est deux petits pêcheurs qui n'ont pas fait énormément d'études. Et ils se retrouvent devant 70 mecs qui ont des doctorats en théologie. Et qui leur dit, vous arrêtez de parler de Jésus, quoi. Alors Pierre et Jean, ils expliquent. Puis les mecs, ils disent, mais quand même, de basse extraction, pour des gens qui n'ont pas l'air très futés, ils parlent vachement bien quand même. Mais n'empêche qu'ils leur interdisent, hein. On vous interdit de parler de Jésus. Et là, Pierre et Jean, qui sont vraiment poussés par le Saint-Esprit, parce que du coup, ils ne sont plus du tout les petits pêcheurs du lac de Galilée, à qui il faut obéir ? À Dieu ou à vous ? Et là, le Sanhédrin utilise l'argument fatal quand on n'a plus d'argument. Il tape. Ah, c'est classique, hein, c'est classique. Qu'est-ce que Luc nous dit dans les versets 40 et 41 du chapitre 5 ? Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Donc il est possible que les apôtres, Pierre et Jean, aient subi les 40 coups moins 1. Donc 39 coups, bam, sur votre dos. A priori, j'ai jamais essayé, mais a priori, ça fait pas du bien. Réaction de Pierre et de Jean, au verset 41. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom du Seigneur. Trop cool, on nous a tapés. C'est trop bien, notre rêve vient d'être réalisé. On a saigné pour le nom du Seigneur Jésus. Wouh ! Et voilà. Apportez de la glace quand même. Et l'ibuprofène. Ah, ça, vous ne connaissez pas l'ibuprofène ? Non, d'accord. De l'alcool alors. Quand Pierre dit à ses chrétiens, voilà, c'est une grâce de s'offrir pour le Seigneur Jésus. En fait, il l'a vécu. Il l'a vécu au moins une fois. Après, il a été mis en prison. Donc, il a vécu plein d'autres choses. Et ce qu'il va subir plus tard, Pierre, c'est qu'il va finir comme le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ah, Pierre, tu vas voir plus tard. On va t'emmener là où tu voudras pas qu'on t'emmène. Et selon la tradition, Pierre a fini crucifié, la tête à l'envers. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il a fini la crucifié comme son maître. Et donc Pierre, en fait, Pierre est bien placé pour exhorter ces chrétiens de Turquie. Pierre fait aussi sûrement référence à un autre épisode, un discours du Seigneur Jésus. Donc, vous le savez maintenant depuis le cours de peau, le premier discours de l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, où Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il y a ?
Le niveau 2, ils n'ont pas suivi le cours.
veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser niveau 2. On pourrait faire une session spéciale un jour sur les évangiles. Dans Matthieu 5, versets 43 à 48, Jésus, je vous rappelle qu'il a dit à Pierre et aux autres apôtres et à plein d'autres disciples, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, sur les païens et sur ses enfants, hein, on pourrait dire. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Ce qui rappelle la section d'hier avec Pau, « Soyez saints, comme votre Père est saint. » Et donc là, vous voyez, hein, qu'est-ce que ça veut dire être parfait ou qu'est-ce que ça veut dire réagir en tant que citoyen des cieux? Truc bizarre, de prime abord, c'est se soumettre à un maître qui ne peut pas admettre qu'on soit chrétien. C'est du pure life, là, vous voyez, ça m'amuse, en fait. Ouais, c'est, voilà. La fatigue aide à la créativité. Dernier cas, dans cette étude de cas. Chapitre 3, versets 1 à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, s'il en est qui refusent d'obéir à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant, votre conduite pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Le rêve. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme, puisque, avec vous, elle hérite la grâce de la vie, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Après les missionnaires, après les différents types de personnes qui doivent être des missionnaires dans leur cadre, les citoyens, les domestiques, nous avons des missionnaires, encore d'autres missionnaires domestiques finalement, que sont les femmes, à l'époque. Je vais essayer de contextualiser, hein, histoire de faire baisser la pression. Pour Pierre, la soumission est un témoignage, je l'ai déjà dit, qui rapproche de Dieu celui auquel on est soumis. Le but, en gros, c'est quelqu'un qui est oppressant, qui s'attend finalement à ce que la personne qui l'oppresse ait une réaction normale, une réaction de rébellion. La personne ne se rebelle pas et au contraire le bénit. Et la personne, en fait, se pose une question. Mais pourquoi? Pourquoi cette personne que je martyrise, elle ne réagit pas? Pourquoi elle réagit comme ça? Moi, je ne me laisserai pas faire. Et attention à bien se remettre dans un contexte romain du 1er siècle. Ou à défaut, dans un contexte français du début du 20e. Les femmes, à l'époque, étaient d'éternels mineurs, qui dépendaient totalement de la grâce d'un homme, soit leur mari, soit, si elles n'étaient pas mariées, de leur père et de leur frère. Elles n'étaient absolument jamais autonomes. C'était des mineurs. Et donc, ces hommes autour d'elles étaient responsables d'elles et avaient tout pouvoir sur elles. Ça peut donc aller de la tendresse, si elles avaient un mari qui les aimait, quoi. Un mari gentil, qui a eu des bons rapports avec sa mère, par exemple, enfin, je vais pas faire de la psychologie, à la maltraitance quotidienne. Ça pouvait aller jusqu'à la maltraitance quotidienne. La tentation, du coup, quand on est une femme libérée, par l'Évangile, et qu'on a acquis une très forte dignité humaine, c'est de ne plus accepter d'être traitée comme une enfant ou comme un punching ball et de se rebeller à la mesure de ses moyens, car je vous rappelle que normalement une femme face à un homme, l'homme gagne. Ça dépend quelle femme. Mais à l'époque, les femmes ne pratiquaient pas les arts martiaux. Voilà, c'est ça. Bon. Du coup, Pierre les appelle à être des missionnaires et à justement continuer de témoigner avec un esprit doux. Et justement, il leur parle de la beauté intérieure. Les chrétiennes pouvaient continuer aussi de se conformer au vieux monde. Et là, je ne vous parle pas encore de beauté intérieure. Parce qu'en fait, apparemment, dans les exhortations de Pierre, on a l'impression que certaines chrétiennes aussi pouvaient aussi se comporter comme des poupées qui misaient tout sur l'apparence. Et en fait, voilà, à l'époque, le plus grand atout des femmes, c'était leur apparence. C'est de séduire, de manipuler. Est-ce que ça a changé ? Je ne sais pas. Je plaisante. Mais en fait, elle pouvait aussi essayer d'être quelqu'un à force de superficialité et de gouaille. La gouaille, c'est un vieux terme qui signifie des femmes qui sont un peu qui causent et qui sont un petit peu qui sont un peu des grandes gueules, quoi. Il y avait cette tentation là. Et la consigne de Pierre, c'est que ces femmes soient soumises, qu'elles aient un esprit doux et paisible. Car là encore, la paix qui vient du Saint-Esprit heurtera sûrement le mari non chrétien, mais aussi reprendra le mari chrétien. Car vous avez remarqué dans ce passage, on nous parle au début de quelqu'un qui n'est pas chrétien, et à la fin, on nous parle d'un mari chrétien, puisqu'il dit, comme ça, il n'y aura plus aucun obstacle à vos prières. Entre vous, quoi. Donc ça concerne aussi les femmes qui ont un mari chrétien. Donc finalement, en fait, voilà, les maris ont besoin de leur femme pour se convertir, ou bien pour atteindre une plus grande communion avec Dieu. Amen. C'est vrai. Et j'aime beaucoup le verset 1 au final. Hein. Soyez soumises à vos maris, afin que s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, il soit gagné sans parole par votre conduite. C'est un témoignage sans parole. Et Pierre donne l'exemple de Sarah, hein, qui a été soumise à Abraham et qui l'appelait mon Seigneur, enfin qui avait du respect pour son mari, même si quand en fait vous lisez le récit d'Abraham, vous voyez qu'en fait la relation entre Abraham et Sarah n'était pas du tout une relation de femme soumise avec un, enfin qui dit rien avec un mari qui donne des ordres. On voit quand même que la relation entre Sarah et Abraham, c'est une relation bien plus vivante que ce qu'on pourrait croire. Donc, Abraham écoute sa femme. Et même parfois, du coup, il n'aurait pas dû l'écouter, mais il l'écoute quand même.
Elle est soumise quand même quand il la donne en Égypte.
Voilà. Et donc, on voit aussi qu'à certains épisodes, que dans certains épisodes.
Un enfant,
ouais.
Je suis désolée, hein, c'est pas.
Ouais. Elle se sacrifie deux fois quand elle se fait prendre pour sa sœur, enfin, quand elle se fait prendre par un souverain, et aussi quand elle donne Agar, parce qu'elle dit, oh, bah, allez, tu vas faire un enfant, voilà. Bon, même si en fait, finalement, quand même, l'enfant d'Agar est légalement son enfant. Ah, Sarah. L'enfant d'Agar n'est plus l'enfant d'Agar. C'est l'enfant de Sarah. Hein. Ismaël. Pas dans la tête de Dieu, mais dans la tête de Sarah, c'est son enfant. Mais après, quand il faut chasser Agar, là par contre, Abraham obéit. Obéit, ouais, il écoute. Donc en fait, on voit une relation. Parce qu'en fait, on voit une relation conjugale qui est plus riche qu'une relation de soumission. Mais en fait, le but de Pierre là-dedans, c'est pas du tout de décrire en fait ce que c'est un couple chrétien super. Le but de Pierre. C'est de leur dire, bah, avec votre attitude qui dénote, avec une attitude de femme qui plutôt veille sur son caractère intérieur, qui est quelqu'un de merveilleux, quoi. Finalement, ça va interpeller le mari non chrétien et ça va encourager le mari chrétien. Et finalement, en fait, je pense que Pierre, avec le côté allez, arrêtez avec vos cheveux tressés, votre maquillage, machin, en fait, soignez votre caractère. Et en fait, finalement, Pierre est un féministe avant l'heure. Parce qu'en fait, du coup, là, la femme n'est pas un objet. C'est pas une mère. Pas que ça. La femme a une utilité dans le couple. C'est qu'en fait, elle équilibre les choses. Et plus qu'elle équilibre, en fait, elle peut sauver son mari, quoi. Faire changer la balance, comme dirait Laetitia. Mais en plus, hein, histoire qu'en fait, il y a encore un équilibre, qui est une réciprocité. Là, en fait, Pierre, quand même, à la fin, parle du mari en disant, bah, voilà, le mari, soyez compréhensif avec votre femme. Et à mon avis, ça, c'est sûrement parce qu'il ne pense pas du tout à une soumission masochiste et qu'il a une idée finalement assez complémentaire des relations homme-femme. Puisqu'il donne des consignes au mari. On peut aussi entrevoir dans sa consigne de compréhension de respecter le sexe faible la confirmation que la condition féminine était souvent synonyme d'esclavage domestique. La raison explicite de ce qu'il dit, c'est la communion fraternelle dans le couple. Mais quand il dit, en fait, traitez-les avec compréhension parce que ce sont des êtres plus faibles, ça pourrait vouloir dire aussi, les traiter pas trop durement, quoi. Comme si finalement, en fait, la femme devait faire toutes ses tâches et il y avait intérêt, sinon elle s'en mangeait une, quoi. Et je pense que, voilà, moi je me dis tout simplement, en fait, s'il y a des femmes battues au 21e siècle, ça devait être très très facile d'avoir des femmes battues au 1er siècle. Et qu'à mon avis, les femmes devaient se prendre autant de roustes que les esclaves. Et donc, en fait, souvent.
Ils avaient le statut déjà.
Comment ?
Ils avaient le statut, elles n'étaient pas considérées comme citoyennes comme.
Voilà, au niveau du citoyen, il y avait des similarités. Après, sur d'autres choses, quand même, elles avaient quand même des privilèges. Mais n'empêche que souvent, on lit ce passage en disant ouais, Pierre, il est misogyne, il parle de sexe faible, tout ça. Ah, mais ouais, mais. C'est parce qu'en fait, on est dans une société civilisée du 21e siècle. Hein. Mais en force brute, hein, je vous promets, hein, la femme, c'est un sexe faible. Hein. Enfin, les hommes, la plupart du temps, en fait, s'ils s'énervent contre une femme, ils la défoncent. Hein. Il y a rien à dire. Hein. Surtout qu'en fait, là, à l'époque, on avait affaire à des hommes, quoi. C'est pas des, je sais pas, des gens. pas des intellectuels universitaires, n'est-ce pas? Voilà, c'est. On avait des mecs. Mais bien sûr, mais je vais dire. Des ouvriers, des agriculteurs, des mecs qui ont des paluches, qui ont à peu près le triple des nôtres, vous voyez. C'était des mecs travailleurs. Et donc voilà, c'était pas des personnes subtiles et intelligentes comme nous. Du coup. Témoignage par l'humilité. Si vous voulez qu'on vous respecte, si vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous écoute, soyez irréprochable. Je pense que c'est la plus grosse application de ce passage. Renverser la table, faire une révolution, ça fonctionne uniquement quand on est assez nombreux et puissants pour gagner. Je dis des évidences comme ça. Les chrétiens à l'époque n'étaient pas assez puissants et pas assez nombreux pour gagner. Même si Dieu l'avait voulu. Hein. Mais Dieu n'était pas d'accord avec une révolution. Et même quand on a gagné, on est dans un rapport de domination. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Dieu n'était pas vraiment d'accord avec le fait de se rebeller en cas de grande puissance. Je pense que les rapports de domination entre les gens ne sont pas des rapports qui sont conformes à l'Évangile. En tout cas, à ma compréhension de l'Évangile. Je pense donc que pour changer les choses, pour changer le regard que les autres ont des chrétiens, de nous, il faut avant tout montrer que nous sommes constructifs, que nous voulons le bien de tous et que notre subversion n'est pas dans la finalité, mais dans les moyens. On est assez d'accord avec nos contemporains par rapport au bien, mais on n'est pas d'accord dans notre définition du bien, dans la définition du bien et dans finalement la finalité de ce bien. Et encore, c'est une subversion pas très dangereuse, parce que finalement notre subversion consiste à ne pas faire, à ne pas penser comme tout le monde, préférer le service, les sacrifices à l'égoïsme et à la domination, adorer Jésus et personne, rien d'autre. Donc finalement, en fait, c'est une subversion qui est assez douce. Les chrétiens, d'accord, sont bizarres, mais ils aiment assez leur prochain pour se sacrifier pour lui. Et ça change tout. L'idée de sacrifice est capitale. Alors vous le savez par rapport à Jésus, mais par rapport à nous, l'idée de sacrifice est capitale. C'est notre sacrifice qui fait que les gens sont choqués, qu'ils sont interpellés et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ça touche le sacrifice. Et pour que ça touche, il faut absolument allier deux choses indissociables pour un témoignage digne de ce nom: affirmation de l'Évangile et bon comportement. Et souvent, on est déséquilibré par... On n'appuie que sur un des deux. Soit on a une affirmation de l'Évangile, mais qui est couplée à un comportement vraiment de gens vraiment insupportables, qui sont d'accord avec rien. Et du coup, en fait, l'Évangile est un peu troublé par ça. Soit, en fait, on fait le bien autour de nous, on est très doux, très serviable, mais en fait, on ne dit pas qu'on fait ça parce qu'on est chrétien. Donc en fait, il faut affirmer bien haut qu'on est chrétien, ce qui va nous attirer des ennuis, et en même temps, du coup, se soumettre et se sacrifier pour les autres, ce qui va les interpeller. Et c'est les deux qui font un bon témoignage, qui fait qu'on nous respecte. Je n'ai plus le temps de traiter les autres questions, les autres choses, par rapport aux réformateurs et aux résistants, mais c'était pas grave. Et du coup, je vais directement sur l'autre point. Comment faire pour être conscient que notre attitude quotidienne est un témoignage? Parce que je sais pas, peut-être que parfois, au quotidien, vous oubliez ça. Que votre attitude est un témoignage. Quelles que soient les choses que vous traversez. Comment faire pour que ce soit un témoignage? Eh bien, en allant à contre-pied de vos réactions naturelles. Et finalement, un chrétien, c'est ni un rebelle, ni une carpette. Ni un soumis, ni un insoumis. Soumis dans le sens carpette. Hein. C'est quelqu'un qui volontairement se sacrifie pour les autres. Et volontairement accepte de souffrir pour le nom de Jésus. Et j'espère bien que si nous faisons tout ça, eh bien ça va changer beaucoup de choses autour de nous. Souvenez-vous-en. Et je vais prier. Merci notre Père de délivrer des enseignements aussi révolutionnaires qui nous prennent à rebrousse-poil, vraiment nous tabassent parce que vraiment ils nous disent des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Et nous voulons te prier pour que tu nous aides dans notre volonté, dans notre caractère à réfléchir, à interpeller nos contemporains, Aide-nous, Seigneur, déjà à affirmer que nous sommes chrétiens. Et aide-nous à avoir le courage d'en payer le prix. Que ce soit en affrontant le mépris de ceux qui sont devant nous, les colibés, les moqueries, ou l'indifférence, ou peut-être parfois la violence. Aide-nous à accepter cela. Et aide-nous à réagir de la bonne manière en pensant à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aide-nous à accepter, à bénir, à prier pour ceux qui voilà, sont pas vraiment très gentils avec nous. Voire sont nos ennemis. Et aide-nous à nous sacrifier pour eux. Aide-nous à leur faire du bien. Et Seigneur, par ton esprit, interpelle-les. Aide-les à se poser des questions. Ils sont tellement loin de toi. Et nous le voyons tellement souvent. Ils ne comprennent rien. Ils ne connaissent rien à ton évangile. Et on se sent tellement petit par rapport à ça. Seigneur, dans notre attitude et dans l'affirmation de nos convictions, que ton esprit nous aide à être efficaces. Interpelle-les, sauve-les, Seigneur. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Illumine-nous de ton action. Toi qui es tout-puissant. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen.